podcast La Première.
C'est maintenant qu'on vous donne la parole sur La Première. C'est question publique. Sophie Brems, le sujet du jour.
Eh bien, les émissions de CO2, vous savez, c'est l'un des gaz à effet de serre. Eh bien, ces émissions n'ont cessé d'augmenter, notamment en Belgique ces dernières années. On a passé à la barre des 100 millions de tonnes par an, selon les chiffres du fédéral. Alors, Pierre Vrielenstein est chercheur au CNRS et répond à toutes vos questions jusqu'à 9h.
Question publique sur La Première.
Et tout à l'heure, il a notamment déjà été question, Jean-Pierre Jacquemin, des pièges à carbone pour éviter ces émissions de CO2. Il en existe, mais c'est finalement pas la solution.
C'est pas la solution. Alors, ce qui existe, ce sont stockages naturels, les océans en mouvement, on l'a vu avec vous, Pierre Vrielenstein, il y a quelques instants, qui entraînent le CO2 au fond de l'océan, des jeunes forêts qui poussent et qui fixent le carbone. Mais il y a aussi des autres pièges, les pièges artificiels, celles que l'homme peut construire à la sortie des cheminées des usines, par exemple, et d'injecter ces CO2 dans des mines de charbon, des mines de sel ou des poches exploitées de pétrole. C'est une solution, mais à très court terme. À long terme, le réchauffement climatique, la dilatation des océans qui feront l'augmentation du niveau des mers, il n'y a qu'une solution, selon vous, c'est réduire les émissions de dioxyde de carbone de CO2. On va voir si nos auditeurs sont d'accord avec vous.
Alors, 070 22 37 37, c'est le numéro que vous pouvez encore former. 070 22 37 37 pour toutes vos questions ou via SMS le 30 51. Voici la première question.
On parle beaucoup d'émissions gazeuses, mais en contrepartie, j'entends tout le temps que les réserves pétrolières et gazeuses, finalement, seraient limitées encore à une trentaine d'années. Qu'en est-il ? C'est gentil d'y répondre. Merci.
Oui, est-ce que ça veut dire que ce serait la solution ? Plus de pétrole, plus de gaz, on n'aurait plus de quoi émettre du CO2, finalement ?
Oui, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit la solution. Donc, du pétrole, c'est vrai que les quantités sont assez limitées. Bon, une trentaine d'années, on n'est pas sûr des chiffres, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Bon, c'est l'ordre de grandeur, voilà. D'ici à 2050, on pense qu'effectivement, il n'y aura plus de pétrole. Mais par contre, le charbon, il y a des milliards de tonnes de charbon disponibles, exploitables. Et donc, on a de quoi, si on injectait tout le charbon dans l'atmosphère, on a de quoi doubler, tripler, quadrupler la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, arriver à des réchauffements qui sont tout à fait... énorme. Donc
mais le charbon, c'est pas une technique du passé ? Est-ce qu'on n'a pas laissé tomber parce que ça coûtait trop cher et que c'était pas rentable ?
Oui, enfin, on peut imaginer, si on est dans une optique où on continue à fonctionner avec des énergies fossiles, on peut très bien imaginer que dans 10 ans, dans 20 ans, on arrive à liquéfier du charbon et à faire des voitures qui fonctionnent avec du charbon liquéfié, par exemple. Enfin, je suis pas spécialisé du tout dans cette technologie, mais je peux imaginer que ça peut se faire. Donc... voilà, soit on continue à brûler d'abord du pétrole et puis après on bascule à du gaz et puis après on bascule à du charbon et en développant les technologies qui font qu'on peut continuer à utiliser ces ressources ou bien on essaie de réduire ces ressources, enfin la consommation de ces ressources. Je pense que c'est la deuxième solution qui est la bonne.
Réduire ces ressources et alors augmenter les énergies renouvelables ?
Oui, en partie. D'abord, je pense principalement réduire la consommation. Donc, faire de la chasse au gaspillage au niveau bâtiment, transport, etc. Et effectivement, faire appel aux énergies renouvelables, oui, bien sûr.
Que pensez-vous de la solution qui consiste à refabriquer du pétrole à partir du carbone qui est dans l'air ?
Est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est possible.
C'est possible.
J'ai
jamais entendu parler de ça.
Si, ça s'est fait sur une période géologique au Crétacé il y a 100 millions d'années. C'est exactement ce qui s'est fait. Le CO2 dans l'air est absorbé par les plantes et par les planctons. Il sédimente lentement, soit au fond des océans, soit dans des couches géologiques. Il s'accumule là pendant des millions d'années et finalement, ça fait du pétrole. Donc on peut très bien le faire, il suffit d'attendre quelques millions d'années, il n'y a pas de problème.
Mais humainement, on ne peut pas accélérer le mouvement et quelque part récupérer le CO2, refaire du pétrole et puis comme ça on aurait...
Non, humainement non. Désolé.
Une autre question avec une question en direct. Monsieur Deleuze, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous téléphonez de Brève, on vous écoute.
Oui, il y a une semaine, j'entendais le professeur Claude Allègre, qui est un scientifique quand même réputé, déclarer que tout compte fait, un réchauffement de 2 degrés, tout le monde savait que ce n'était pas trop grave et qu'à la limite, ça provoquerait des économies d'énergie. Alors quand j'entends des leaders d'opinion qui tout compte fait incitent les gens à ne pas changer leur comportement, je me demande s'ils se rendent bien compte du mal qu'ils font en débitant de pareilles bêtises. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Alors, les propos de Claude Allègre.
Oui, on est assez d'accord. Voilà, Claude Allègre, effectivement, c'est un spécialiste, c'est un scientifique, mais dans un domaine qui est la tectonique des plaques et pas du tout dans les domaines du climat. Donc, si moi, je vous tenais des propos alarmistes ou non alarmistes sur la tectonique des plaques, ça n'aurait pas grande valeur scientifique parce que j'y connais rien. Donc, je pense que c'est un peu ce que Claude Allègre fait. Donc, je ne sais pas pourquoi il le fait, c'est quoi ça...
Mais les propos qu'il tient, il dit qu'il se réfère à un certain nombre d'études faites par des gens, j'allais dire comme vous, climatologues ou autres. Pourquoi est-ce qu'il arrive à des conclusions différentes ?
Je ne sais pas. Moi, ce que je constate, c'est que Claude Allègre lit des articles scientifiques qui sont les mêmes que ceux qu'on lise nous. Et l'analyse qu'il en fait est à l'opposé de l'analyse que j'en fais moi. Donc la conclusion qu'il tire de l'article, c'est que finalement il ne se passe rien, alors que quand moi je lis l'article, je vois qu'il se passe quelque chose.
C'est un menteur ?
Je pense que c'est un menteur scientifique, oui. Pour une raison obscure pour moi, mais oui, je pense qu'il déforme la réalité scientifique. Donc quand on voit l'exercice du GIEC, donc le rapport qui est sorti à Paris il y a 15 jours maintenant, bon, ben, ça regroupe 500 scientifiques qui ont travaillé pendant 2 ans, qui ont fait une analyse de tout ce qui a été publié pendant 5 ans. Ça a été relu par 300 relecteurs scientifiques et gouvernementaux, qui ont fait au total, je crois, 30 000 commentaires. Donc c'est vraiment la communauté internationale qui a évalué ce document. Et donc voilà, c'est un document qui est accepté par toute la communauté scientifique, sauf Claude Allègre.
Ouais, on en parlait hier encore, je crois que c'est le Times qui disait que le réchauffement climatique pouvait aussi être dû à des rayonnements cosmiques plus importants. Est-ce que un, c'est la réalité, et deux, à quoi ça sert ? Politiquement, alors, peut-être.
Ça sert politiquement pour dire que, voilà, finalement, c'est pas l'homme, c'est pas l'activité humaine, c'est un système naturel. Voilà, le soleil a des cycles, donc là, on serait dans une phase où il y aurait plus de rayonnement, et donc plus d'interaction avec l'atmosphère, et donc un réchauffement. Mais c'est complètement théorique, c'est pas prouvé. Et il n'y a pas encore un modèle climatique, le type des modèles météo qu'on a, qui peut, à l'aide de ce phénomène unique, expliquer l'évolution du climat qu'on voit sur le dernier siècle, par exemple.
Vous êtes chercheur, il y a des lobbies importants qui œuvrent pour essayer de faire changer les conclusions de vos études ?
Au niveau scientifique, non, il n'y a pas de lobby important. Au niveau diplomatique, bon, pour la science plénière, au rapport du GIEC, c'est sûr qu'on voyait quand même des pressions à gauche, à droite pour essayer de phraser le rapport, le résumé du rapport dans une certaine direction, mais pas au niveau de la science.
Et dans quelle direction ?
Bon, il y avait la représentation chinoise qui voulait, grosso modo, plus ou moins minimiser l'importance de la combustion d'énergie fossile, par exemple.
À propos de la Chine, il y a justement un auditeur qui nous contacte en disant que la Chine va s'équiper de 562 centrales thermiques en 8 ans. 10 centrales polluent plus que toutes les voitures en Europe. Pourquoi donc ne pas s'attaquer d'abord à l'Asie plus polluante ?
Pour l'instant, l'Asie n'est pas encore la plus polluante. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore les États-Unis et c'est l'Europe qui sont les plus polluants. Bon, la Chine, c'est sûr qu'elle est en croissance exponentielle et qu'elle nous rattrape, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et si on fait l'intégrale depuis qu'on pollue, donc depuis 150 ans, là, il y a aucun doute, c'est vraiment les pays développés, donc à nouveau États-Unis et Europe. Donc c'est nous qui sommes responsables du réchauffement climatique actuel. Alors après, on peut dire, oui, mais bon, dans le siècle qui vient, ce sera un peu plus la Chine, un peu moins à nous, donc c'est à eux de faire quelque chose, mais je pense pas. Je pense qu'on a une responsabilité historique. Et en plus, c'est très difficile de contraindre d'autres pays à faire quelque chose si nous, on ne fait rien, alors qu'on est les principaux responsables.
Mais il faut quand même que les autres suivent.
Il faudra à terme que les autres suivent. C'est comme Kyoto. Je pense que l'Europe peut donner l'exemple, et après, les autres doivent suivre.
C'est Pierre Frilingstein qui répond à toutes vos questions ce matin.
Question publique, 070 22 37 37.
Mais font très peu, changent très peu leurs habitudes de vie. Donc je voudrais savoir ce qu'il entend bien plus précisément par là. Merci.
En fait, on n'a pas très bien entendu toute la question. C'est au niveau de vos propos tout à l'heure. Vous avez dit qu'il pourrait avoir une augmentation de 2 à 3 degrés en disant qu'au-delà, ben, ça deviendrait ingérable. Alors que pensez-vous, qu'entendez-vous par ingérable ? Qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple, si ça augmente de 3 degrés l'atmosphère ?
Bon, il y a plein de conséquences. Bon, il y a un rapport du GIEC qui va sortir, donc il y aura la séance plénière qui sera à Bruxelles au mois d'avril sur en fait toute la partie impact du changement climatique, impact sur les écosystèmes, impact sur l'environnement, impact sur l'eau, impact sur les ressources, impact sur l'énergie, etc. Donc bon, le rapport il n'est pas encore sorti. Donc en plus, bon, moi j'ai pas participé à ce rapport-là. Moi j'ai participé uniquement à la première partie sur la science du changement climatique. Mais bon, ce qu'on sait déjà, c'est que bon, réchauffement de 3-4 degrés, en fait, bon, on peut se dire bon, c'est pas tant que ça finalement. En Belgique, il fera comme dans le bassin méditerranéen, ça peut être assez plaisant finalement. Mais bon, la canicule en 2003, c'était en moyenne 2 degrés de plus qu'une année normale. Et ça a fait, bon, les chiffres, c'est 10 000 morts en France, je crois que c'est de l'ordre de 1 000 morts en Belgique, donc voilà, c'est loin d'être négligeable. Là, je parle uniquement de l'impact sur l'homme. Il y a également un impact sur les écosystèmes. C'est pas du tout sûr que si on a un réchauffement de 3 à 4 degrés à l'échelle d'un siècle, les écosystèmes, donc les forêts de hêtres, les forêts ardennaises, vont arriver à survivre et à s'adapter.
On a tous en tête le film de Day After. Enfin, il y a le film d'Al Gore qui est plutôt scientifique. Ah, Sophie, une question à propos du Day After. Peut-être.
Voilà, ouais. À ce propos-là, écoutez.
Je me demande aussi si le réchauffement de l'atmosphère pourrait provoquer le phénomène qui est décrit dans le film The Day After, c'est-à-dire en fait de conduire carrément un phénomène contraire et à une glaciation généralisée, par exemple de l'hémisphère nord. Merci de me répondre à cette question. Au revoir et bonne journée.
Oui, bon, alors The Day After, c'est vraiment un film hollywoodien très drôle, très amusant, mais pas du tout réaliste, à l'opposé du film d'Al Gore, qui au contraire est vraiment un film que moi j'ai trouvé scientifiquement excellent et tout à fait réaliste. Donc, bon, pour en revenir plus particulièrement à la question, ça s'est passé dans le passé, ça s'est passé donc à l'Holocène, donc il y a 10 000 ans, voilà, il y a eu des débâcles de calottes de glace dans l'Atlantique Nord, et donc ça a provoqué un ralentissement, voire un arrêt complet de la circulation donc des masses océaniques, donc ce qu'on appelle la circulation thermohaline, donc la distribution des masses d'eau dans l'Atlantique, et donc ça a ralenti le Gulf Stream, et donc ça a conduit à un refroidissement régional, donc en Europe de l'Ouest, pendant quelques siècles. Alors, est-ce que ça peut se passer dans le futur? Oui. Est-ce que ça peut se passer dans le siècle à venir? Non. En fait, il y a... Bon, c'est nouveau, forcément, c'est basé que sur des modèles, parce qu'on n'a que des modèles pour nous prédire le futur. Aucun des modèles actuels ne prévoit un arrêt complet de la circulation océanique à l'échelle du XXIe siècle. Donc il peut voir un léger ralentissement, mais qui ne sera pas suffisant pour arrêter la circulation du Gulf Stream, et donc pas suffisant pour entraîner un refroidissement en Europe, donc de type glaciation. Donc voilà, pour le XXIe siècle, il y aura un réchauffement, c'est quasi certain. Alors après, peut-être qu'à l'échelle de 1000 ans, on peut avoir un refroidissement, mais c'est un autre problème.
Un autre auditeur par téléphone qui demande qu'en est-il des trous dans la couche d'ozone. Il dit que M. Le Pen a dit, par exemple hier, qu'il n'y avait plus de problème.
M. Le Pen?
Oui, dit-il.
Dit-il. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas entendu M. Le Pen hier, je suis désolé.
Et concernant la couche d'ozone?
Oui, mais la couche d'ozone... Bon,
il y a un effort quand même qui a été fait.
Il y a
fait,
un effort qui
a
été fait, il y a un protocole qui a été signé par toutes les nations, c'est le protocole de Montréal.
Qui a eu déjà des effets positifs.
Qui a des effets, donc en fait on a remplacé une série de gaz qu'on appelle bon, les CFC, les chlorofluorocarbonés, par d'autres gaz qui ont bon, l'avantage de ne pas aller jusque dans la stratosphère, donc de ne pas détruire la couche d'ozone. Ils sont détruits avant, dans les basses couches de l'atmosphère. Donc on observe déjà, petit à petit, une reformation de la l'ozone au niveau de l'Antarctique, dans la stratosphère. Mais bon, ça prend encore du temps. Et bon, ces gaz ont des durées de vie très longues, donc on se dit qu'il y aura encore quelques années, quelques décennies avant qu'on retrouve un système normal.
Une autre question pratique, écoutez.
Bonjour, je voudrais vous poser deux petites questions pratiques. Est-ce qu'on dégage plus de CO2 en se brûlant au bois ou bien au gaz? Et deuxième question, quand on a beaucoup de branchages dont il faut se débarrasser, est-ce qu'il vaut mieux les brûler ou bien les laisser se décomposer sur le sol, quelque part.
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est vrai que c'est très pratique. D'abord,
oui, c'est pratique.
Charbon ou gaz?
Bois ou gaz.
Ouais, bois ou gaz.
Le gaz. Bon, le gaz naturel, c'est ce qui émet le moins de CO2 par kilojoule, enfin par énergie récupérée en chaleur. Donc c'est plus efficace d'utiliser du gaz que d'utiliser du pétrole. Le pire, c'est le charbon, puis c'est le pétrole, le bois et le gaz.
Alors, un compost de branchage ou brûler ces petites feuilles
pour s'en débarrasser.
Au final, ça reviendra un peu au même. Alors bon, le compost, bon, ça va se décomposer lentement. Bon, on peut récupérer une partie qui peut servir d'engrais, etc. Mais au niveau du carbone, au final, il va quand même se retrouver dans l'atmosphère, soit très rapidement quand on brûle, soit très très lentement quand il sous forme de compost.
Autre question par téléphone, que pensez-vous des bourses d'échange de CO2 et comment expliquer le faible succès? On peut peut-être rappeler ce que c'est, hein, ces bourses d'échange de CO2.
Les bourses d'échange, ce sont des entreprises qui,
voilà,
en gros, rachètent du carbone à d'autres pour pouvoir continuer à en émettre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que ça, ce serait aussi la solution pour avoir un certain équilibre?
Mais c'est nouveau, c'est une solution à court terme. Je pense que oui, effectivement, c'est une solution dans le sens que voilà, on peut continuer un peu à émettre, mais en même temps, soit on favorise des plantations de carbone ou du développement dans d'autres pays qui vont émettre moins de carbone. Donc globalement, on arrive au plus ou moins au même niveau, parce que ce qu'on émet en plus à gauche, on émet en moins à droite.
On répond à Kyoto qui demande aux pays industrialisés de diminuer, mais qui n'impose rien pour les pays en voie de développement, quoi.
On répond à Kyoto, mais je pense que la stratégie à long terme, c'est quand même d'arriver quand même à réduire, aussi bien donc dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement.
Et on a aussi compris votre message, parce qu'on va s'arrêter là. Pierre Friedenstein, c'est aussi réduire notre consommation.
Absolument.
Retrouvez Question publique tous les jours de la semaine entre 8h40 et 9h.
La première.